VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 avril 2019. En direct de Washington, Eric Manelakidza et Anne Albertson. D'abord, le sommaire.
La pression s'est accrue sur le président soudanais Omar el-Béchir après l'appel de la police et de 3 pays occidentaux à une transition politique.
Au Cameroun, les militants de Maurice Kamto déterminés à obtenir sa libération.
Le président de la Centrafrique optimiste pour l'avenir de l'accord de paix signé avec 14 groupes armés en février à Khartoum.
Les manquements de la presse au Rwanda avant et pendant le génocide des Tutsis de 1994.
La RTLM va être la grande animatrice sonore du génocide alors que les autres médias de la haine ont pratiquement disparu.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche aujourd'hui sur la crise en Libye.
En Côte d'Ivoire, le PDCI a soufflé hier ses 63 ans d'existence.
C'était l'occasion pour le président Bédié de nous donner des mots d'ordre qu'on aille investir les terrains parce que 2020, c'est un objectif très important pour le PDCI.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah s'est engagé ce mardi à organiser sous 90 jours un scrutin présidentiel transparent et régulier, propos tenus dans la foulée de sa nomination à ce poste malgré l'opposition de la rue. Les appels à manifester et à la grève générale se sont multipliés sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination. Quelques milliers d'étudiants ont crié leur colère dans les rues d'Alger, arguant qu'ils continueront à marcher parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été écoutés.
Le mouvement de contestation réclame de sortir de ce cadre pour mettre sur pied des institutions de transition permettant d'engager des réformes profondes et d'organiser des élections libres. El Moudjahid a évoqué une piste de compromis avec la création d'une commission indépendante qui serait chargée de tout le processus électoral.
Au Cameroun, les militants du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto, multiplient la pression pour obtenir la libération de leur leader. Les 17 militants interpellé hier à Yaoundé en marge d'une audience annoncée de M. Kamto ont été libérés. De Yaoundé, les précisions de Emmanuel Jultap.
Au moins 500 militants de ce parti ont convergé hier vers la cour d'appel du centre à Yaoundé avec l'intention d'assister à l'audience de demande de mise en liberté immédiate de Maurice Kamto. Mais un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour les tenir à distance. En l'absence des prévenus qui ont refusé de sortir de leur geôle, la cour d'appel du centre à Yaoundé a décidé du maintien en prison du président du MRC, de 4 de ses alliés et 2 militants du MRC. L'opposant Kamto, qui revendique la victoire à la présidentielle de 2018, a été arrêté le 28 janvier dernier à Douala. La justice le poursuit entre autres d'incitation à la révolte. Monsieur Kamto, qui se déclare prisonnier politique, encourt la peine de mort. Il a demandé à être jugé en public et refuse de comparaître à huis clos. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Des combattants de Boko Haram ont attaqué hier une ville du nord-est du Nigeria. Selon les habitants et les secours, 2000 personnes sont arrivées hier dans la grande ville de Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Ces personnes ont été évacuées par l'armée qui prépare une offensive contre les djihadistes de Boko Haram. Les habitants de Jakana, communauté à 40 km de la capitale de l'État de Borno, ont été emmenés par des camions dans un camp de déplacés, selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences.
En visite à Washington, le président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est montré optimiste ce mardi quant à la réussite de l'accord de paix signé en février avec des groupes armés. Jean-Roger Billon.
Monsieur Touadéra a souligné que cet accord comporte des mesures sur des sujets cruciaux comme le partage du pouvoir. Il a débouché sur la formation d'un gouvernement incluant plusieurs membres des groupes armés. Ce nouveau gouvernement inclusif accorde davantage de portefeuilles aux signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum au Soudan début février. C'est le 8e signé depuis le début de la crise marquée par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la Séléka, rébellion à majorité musulmane. Le président Touadéra a affiché son optimisme, indiquant que toutes les parties prenantes ont eu le temps nécessaire pour discuter tous les points qui ont fait l'objet de l'accord. Nous pensons que ça peut être le dernier accord si nous tous, nous nous engageons fermement à la mise en œuvre, a-t-il déclaré en marge d'une rencontre à l'Institut de la paix des États-Unis. Faustin Archange Touadéra doit rencontrer à Washington le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et espère encourager les investissements américains dans son pays. Il a rassuré sur l'influence grandissante de Moscou dans le pays en défendant son implication. Il y a de la place pour tout le monde en Centrafrique, a-t-il précisé.
Le ministre gabonais de l'Éducation a été conspué hier à Libreville au cours d'une tournée des lycées destinée à calmer la colère des élèves qui manifestent depuis lundi contre un changement des règles d'attribution des bourses d'études. À son arrivée au gymnase du lycée Paul Gondjou, situé dans le nord de Libreville, le ministre Michel Minga-Messon a été copieusement hué par plusieurs dizaines d'élèves venus l'écouter. Face à près de 700 lycéens, il a appelé les jeunes à se constituer en délégation pour discuter avec le gouvernement plutôt que de descendre dans les rues.
Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi à New York. Les 15 se réuniront à huis clos sur la Libye où des combats se déroulent au sud de la capitale. L'ONU a annoncé hier le report sinédié d'une conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, expliquera devant le Conseil sa décision de reporter une conférence nationale qui était prévue du 14 au 16 avril à Ghadames. En préparation depuis plusieurs mois, elle devait permettre de dresser une feuille de route à même de sortir le pays du chaos. Depuis jeudi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Il doit cependant compter dans sa progression avec le gouvernement d'Union nationale qui a promis dimanche une contre-offensive sans précédent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'escalade de la violence autour de Tripoli et appelé à un arrêt immédiat des combats. Il a exhorté toutes les parties à engager immédiatement le dialogue afin de trouver une solution politique. Les organisations internationales craignent que les civils ne fassent une nouvelle fois les frais de ces affrontements interlibyens. Quelques 3400 personnes ont déjà été déplacés par les combats, selon l'ONU.
Au Maroc, le procès en appel du patron de presse Taoufik Bouachrine s'est ouvert hier à Casablanca, 5 mois après sa condamnation à 12 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles qu'il a toujours niées en dénonçant un procès politique. L'affaire, qui avait été jugée en grande partie à huis clos en première instance, a passionné la presse marocaine du fait de la personnalité de l'accusé, connu pour son ton critique et de la gravité des charges, traite d'êtres humains, abus de pouvoir à des fins sexuelles, viol et tentative de viol envers 8 plaignantes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, le conseil permanent de l'Organisation des États américains a reconnu ce mardi le représentant de l'opposant vénézuélien Juan Guaido comme ambassadeur du pays au sein de l'instance régionale jusqu'à la tenue de nouvelles élections au Venezuela.
Le président américain Donald Trump recevait son homologue égyptien hier à la Maison-Blanche. L'occasion pour le président américain de louer le très bon travail d'Abdel Fattah al-Sissi. Des détails avec Morgane Guiriec.
Je pense qu'il fait un très bon travail, a lancé M. Trump, interrogé sur les efforts d'Abdel Fattah al-Sissi pour se maintenir au pouvoir après la fin de son deuxième mandat en 2022. L'ex-chef de l'armée égyptienne a destitué son prédécesseur islamiste, Mohamed Morsi, en 2013, avant d'être élu à la présidence un an plus tard. Les relations entre l'Égypte et les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes, a assuré M. Trump, sans mentionner à aucun moment la question des droits de l'homme. C'est la deuxième fois que l'homme fort du Caire était reçu par M. Trump à la Maison Blanche, il n'avait jamais été invité par Barack Obama. Plusieurs amendements à la constitution égyptienne de 2014 doivent être prochainement soumis à référendum et cette réforme permettrait de renforcer les pouvoirs de l'exécutif et de l'armée et au chef de l'État de se maintenir à la tête du pays au-delà de 2022, année de la fin de son deuxième mandat.
Morgane Guiriec. Le président Donald Trump a haussé le ton ce mardi en menaçant l'Union européenne de nouveaux tarifs douaniers si elle ne mettait pas fin aux subventions à Airbus. Cette menace risque de raviver une fragile trêve commerciale.
Par ailleurs, les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit assorti de conditions. La durée reste toutefois à déterminer au cours d'un sommet extraordinaire aujourd'hui à Bruxelles pour écarter le spectre d'un no deal. Les dirigeants européens examinent donc la nouvelle demande britannique de report du Brexit au 30 juin. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, plaide lui pour un délai d'un an. Depuis le référendum de 2016 qui a décidé du Brexit, la Chambre des communes a tenu plus de 500 heures de débat sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans résultat, poussant la première ministre britannique à réclamer deux fois à l'Union européenne un report du Brexit.
Le premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahou est donné vainqueur des élections législatives par les projections des médias. Il le montre clairement mieux placé que son principal concurrent pour former une coalition de droite après comptage de 96% des votes. Ses projections en siège établies à partir du comptage des bulletins montrent le parti de M. Netanyahou au coude à coude avec la liste bleu-blanc centre-droit de Benny Gantz, mais avec une majorité potentielle de 65 ou 67 mandats sur les 120 de la prochaine Knesset.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco de Nanit Sylvani Talani.
MTN Ghana déplore plus d'une centaine de coupures de sa fibre optique par mois, ce qui dégrade la qualité de ses services et cause l'insatisfaction de ses clients. Selon Ecofin, les travaux de construction routière sont responsables de 49% de ces coupures et les entreprises privées de 37%. 14% des ruptures sont occasionnées par les travaux miniers, ceux de services publics tels que l'électricité, l'eau potable et les travaux sur le chemin de fer. Ces incidents coûtent des millions de cédis à MTN, mais ne l'empêcheront pas d'investir 160 millions de dollars cette année pour maintenir au top son service. Le gouvernement zambien a commencé la construction de 6 centrales solaires d'une capacité de 20 MW chacune grâce au programme de tarifs de rachat d'électricité. Selon l'agence Ecofin, les 6 projets ont été alloués à un tarif de rachat moyen de 0,044 $ le kilowattheure. Pour terminer, en Algérie, le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance a progressé de 2,22%, soit 142,6 milliards de dinars en fin décembre 2018, d'après le Conseil national des assurances. L'agence Ecofin écrit que les sociétés d'assurance dommages qui contrôlent 88% du marché national des assurances ont réalisé un profit de 126 milliards de dinars, soit 3,2% de hausse grâce aux branches automobiles, incendies et risques divers. Par contre, les assurances de personnes relatives notamment à la maladie, l'assistance ou la vie décès, ont connu une baisse de 10,5%.
Et nous enchaînons directement avec les sports. On commence par le football. C'est Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba. Eh bien, Liverpool a fait un premier pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions.
Oui, les Reds se sont imposés 2-0 à domicile contre Porto. En quart de finale aller, le Guinéen Naby Keïta a ouvert la marque dès la 5e minute et le Brésilien Roberto Firmino a alourdi le score 20 minutes plus tard. Dans l'autre match de ces cas, le gardien français de Tottenham, Hugo Lloris, a arrêté un pénalty et l'ailier sud-coréen Son Heung-min a inscrit le seul but du match face à Manchester City, 1-0. Pour atteindre les premières demi-finales européennes depuis 1984, les Spurs devront cependant aller chercher la qualification sur le terrain des Citizens le 17 avril.
Et ce soir, c'est la suite de la Ligue des Champions, n'est-ce pas, Yacouba?
Oui, Manchester United reçoit le FC Barcelone de Lionel Messi en quart de finale aller pour un classique du foot européen souvent spectaculaire. Dans l'autre rencontre au programme de cette soirée, la miraculeuse Juventus Turin s'attaque à la jeunesse dorée de l'Ajax d'Amsterdam avec sa meilleure arme Cristiano Ronaldo. CR7 s'est blessé fin mars en sélection portugaise, mais il va mieux et sera titulaire selon son entraîneur Massimiliano Allegri.
La Copa América 2020 se jouera en Argentine et en Colombie.
Oui, l'annonce a été faite par la Confédération sud-américaine de football qui inaugure un nouveau format avec deux pays organisateurs. La CONMEBOL a prévu de répartir les équipes en deux groupes de 6 qui joueraient dans chacun des deux pays. Le format actuel qui restera en vigueur pour l'édition 2019 au Brésil fonctionne avec 3 groupes de 4 répartis par tirage au sort. En 2020, les groupes seront définis selon des critères géographiques. La Colombie, le Brésil, le Venezuela, l'Équateur et le Pérou, qui appartiennent à la zone nord, joueront en Colombie. Avec une des deux sélections invitées, l'Argentine recevra pour sa part les rencontres de la zone sud avec l'équipe locale, ainsi que le Chili, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, et une sélection invitée.
Enfin, pour terminer, Yacouba, de retour au Brésil, Pelé est en observation à l'hôpital.
l'hôpital.
Et oui, le roi du football est resté en observation dans un hôpital de Sao Paulo après son retour au Brésil en provenance de Paris où il avait été hospitalisé 6 jours pour une infection. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a indiqué dans un communiqué que l'état de santé de Pelé, 78 ans, était bon et qu'il devait passer des examens en vue d'une éventuelle admission. Il avait été hospitalisé le 3 avril après une rencontre à Paris avec le jeune champion du monde français Kylian Mbappé.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakidza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Semaine de deuil national de Rwanda pour commémorer le 25e anniversaire du génocide des Tutsis de 1994. 1 million de personnes ont été massacrées en 100 jours à partir du 7 avril au 17 juillet de la même année. Quel a été le rôle des médias dans cette tragédie? Notre envoyé spécial à Kigali s'est entretenu avec Jean-François Dupaquier, journaliste français et auteur de plusieurs livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
Le rôle des médias était important à partir des années 1991-1992, lorsqu'a été créé le pluralisme des médias. Mais vous savez que le premier média de la haine, Kangoura, a été créé dès le début de l'année 1990. Il s'est montré particulièrement virulent après l'attaque du Front Patriotique le 1er octobre 1990 et a été en quelque sorte le phare de ces médias de la haine qui ont distillé leur venin dans la population pour inciter à tuer finalement les voisins Tutsis.
Mais le plus connu, c'était plutôt la radio. Radio des Mille Collines, non ?
Oui, mais la Radio des Mille Collines est apparue plus tard. Elle est apparue en juillet 1993, à la veille de la signature des accords d'Arusha, et elle est devenue spécialement virulente à partir de la tentative de coup d'État au Burundi en octobre 1993. Et là, on voit bien un média typiquement d'incitation à la haine, d'organisation de cette incitation, et puis au moment où le génocide commence, d'animation du génocide, car la RTLM va être la grande animatrice sonore du génocide, alors que les autres médias de la haine ont pratiquement disparu.
Les journalistes qui exerçaient dans ces médias, ils sont où maintenant? Je sais qu'Hassan Gezé a été arrêté, jugé, et les autres?
Les journalistes, alors la plupart ont réussi à s'échapper, mais quelques-uns emblématiques ont été arrêtés, à commencer bien sûr par Ferdinand Naïmana, le fondateur de la RTLM, qui a été jugé, condamné, et puis récemment qui est sorti de prison au Cameroun. Hassan Gezé a été condamné lui aussi, n'est pas sorti de prison. Georges Roudjou, l'éditorialiste de la RTLM, a effectué pratiquement toute sa peine et a été libéré en fin de peine en Italie et il se trouve actuellement en Belgique, peut-être sous un nom d'emprunt car il ne veut plus parler de cette affaire et personne ne le voit plus. Et puis quelques-uns des journalistes sont morts au Congo pendant la guerre du Congo.
En France, il n'y en a aucun qui est là-bas, notamment Madame Abiyarimana qui a apparemment financé la radio des Mille Collines.
Elle et son mari sont parmi les financiers plus ou moins caché de la radio des Mille Collines. Au départ, ils devaient même être les principaux financiers, puis après, ils se sont un peu dissimulés derrière d'autres protagonistes, comme Félicien Kabouga, comme des hauts militaires. Mais elle n'est pas elle-même une journaliste, elle est simplement une personne qui a sans doute joué un rôle, mais qui reste à déterminer exactement dans l'organisation du génocide.
25 ans après, est-ce que vous pensez que le Rwanda est dans le droit chemin par rapport à la liberté de la presse? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de liberté de la presse aujourd'hui au Rwanda.
On est sorti d'une période extrêmement difficile, comme vous l'avez dit, de médias de la haine qui incitent la population à une sorte de suicide collectif, parce que c'est bien ainsi qu'on peut qualifier le génocide. Il est certain qu'aujourd'hui au Rwanda, la presse ne bénéficie pas de la liberté d'un certain nombre de pays démocratiques. On peut le regretter, mais je pense quand même qu'il y a eu des progrès ces dernières années.
Jean-François Dupaquier, journaliste français et auteur de plusieurs livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
En RDC, vous l'avez suivi, le Front commun pour le Congo FCC regrette des propos militants contre le chef de l'État critique à l'encontre de son prédécesseur Joseph Kabila. Monsieur Tshisekedi a demandé jeudi dernier à Washington l'aide des États-Unis pour sortir son pays de la crise dans laquelle il se trouve depuis des décennies et a mis en cause le pouvoir précédent, le régime précédent. Donc, pour une analyse, Ekia Badou Adjoint à Kinshasa, le directeur de publication de la revue congolaise Géopolis, William Kaingai.
Moi, je suis optimiste parce que, au-delà des questions de réglage des personnalités, des réglages d'humeur, des réglages de tempérament, il y a un lien plus fort qui dépasse les calculs individuels. C'est l'intérêt général du pays. C'est l'intérêt supérieur de la nation, comme nous disons ici. Il faut jamais oublier que dans ce grand pays, il n'y a vraiment aucune force qui peut diriger totalement seule et avoir une majorité absolue.
Quand vous dites besoin de s'associer à d'autres, quand les partisans de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ont qualifié d'attaque gratuite contre leur camp les déclarations faites aux États-Unis par le nouveau président, M. Tshisekedi, qu'en pensez-vous? Est-ce des attaques gratuites, comme ils le disent?
Moi, je pense que nul ne peut ignorer que notre pays a quand même traversé des périodes d'autoritarisme. Il ne faut pas oublier cela. Et ceci n'est pas de fait simplement d'un camp. Nous étions dans un système qui a produit ses propres contradictions. Et que l'on demande à ce que le président veuille changer ce système, c'est tout à fait normal. Il veut le déboulonner. Qui va vouloir qu'un système ne soit pas démocratique? Nous voulons tous de la démocratie. Que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent se sentir visés, pas par le propos du président, mais par les insinuations. C'est toujours l'arrière-coup. Ce qui reste derrière, ce que l'on sous-entend. Le discours est beaucoup plus entendu, mais le sous-entendu est plus profond que le discours.
Alors, vous voulez que le pays aille de l'avant? Est-ce que vous pensez que l'aide américaine peut le permettre? C'est une aide appropriée, selon vous?
Absolument. Ça dit que, d'abord, l'aide morale. Les États-Unis ont quand même une expérience de la démocratie. Chez nous, dans ce pays, nous avons développé quand même une certaine pensée souverainiste et très forte. Alors, il ne faudrait pas que l'aide américaine puisse être perçue comme une instrumentalisation de notre démocratie. C'est ça qui est aussi la deuxième crainte. Oui, aider les Congos, c'est une chose, mais l'aider en respectant son identité, en respectant sa marche vers la démocratie et en prenant en compte ses erreurs nécessaires à la maturation. L'Amérique peut aider en tant que pays regroupant beaucoup d'investisseurs qui peuvent venir ici chez nous appuyer notre économie, mais ça devra se faire en respectant la dignité d'un peuple qui, il faut le dire, il ne lui reste que ça à protéger. Moi, je pense que la qualité de leadership peut rapidement résorber les différences des chiffres. Si l'action qui est menée par le président est bien entendu dans une coalition avec les FCC et faite pour la population, nous sommes dans un pays où les fractures ne sont pas très grandes. La seule fracture qu'il y a, c'est que nous avons une minorité de ceux qui ont un peu de moyens et la grande majorité des pauvres. Le président de la République et cette coalition doivent trouver, il y a une obligation. Il faut lire ça comme un appel du peuple. Le peuple a choisi un président, le peuple a choisi une majorité et le peuple oblige cette majorité et ce président de trouver les voies et moyens pour lui consacrer un avenir meilleur. C'est un challenge qui est donné aux hommes politiques. Si malheureusement ils se recroquent dans leur propre égo, eh bien le peuple qui est le souverain va vouloir prendre une sanction. C'est une obligation morale qu'il y a aujourd'hui que personne d'entre vous ne peut à lui-même conserver le mantel essentiel du pouvoir. Vous le partagez ensemble et vous choisissez le bon chemin. C'est ça le message que moi j'ai dit, le choix qui a été fait, qui est relativement assez paradoxal pour une démocratie qui est naissante. Mais nous sommes un pays de paradoxes et celui-là, il est ingénieux parce qu'il pousse tout le monde à travailler ensemble.
William Kaingaye, directeur de publication de la revue congolaise Géopolis.
VOA Afrique, 24/24, à Kisangani, en RDC. Sur 97.7 FM.
Persistance des manifestations anti-Omar el-Béchir qui ont débuté il y a près de 4 mois. Ce mardi, des milliers de personnes à Khartoum ont appelé l'armée à rejoindre leur mouvement. Les protestataires étaient réunis devant son Kigé pour le 4e jour consécutif. Peuvent-ils faire céder le président Omar el-Béchir? La réponse avec le chercheur spécialiste sur l'Afrique orientale, Gérard Prunier.
On peut déjà considérer que la page Omar el-Béchir est tournée. Mais ça n'est que le début des problèmes, pas la fin.
C'est-à-dire ?
Nous avons un gouvernement de type autoritaire, totalitaire, qui est au pouvoir depuis 30 ans. Si un monsieur s'en va, un système ne disparaît pas pour autant.
Des milliers de Soudanais ont appelé aujourd'hui l'armée à rejoindre leur mouvement. Est-ce qu'elle pourrait se retourner contre le régime ?
Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé 2 fois, puisque les Soudanais sont coutumiers du fait qu'ils n'aiment pas les dictatures. Ils en ont déjà renversé une en 1964 et une nôtre en 1985. Bon, Béchir s'est montré plus coriace que les autres, mais à chaque fois c'est le même scénario. C'est un mouvement civil, non armé, et puis à un certain moment, l'armée arbitre la situation en rejoignant les révoltés.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège estiment que les autorités soudanaises doivent proposer un plan de transition politique crédible. Ce scénario est-il envisageable ?
Non. Parce que, bien sûr, ils cherchent à pousser à ce que le gouvernement change sans un certain niveau de violence. Mais on ne voit pas du tout le groupe islamo-business, parce que ce sont pas des islamistes fanatiques, c'est juste un marqueur politique. Par contre, c'est très lié à une exploitation économique très avancée. On ne les voit pas tout d'un coup dire « Bon, ben, ça va, c'est fini. Merci beaucoup, au revoir. » Et négocier quelque chose de crédible.
Est-ce que la stabilité du pays, la sécurité des Soudanais est en jeu ?
Oui, bien sûr. Et le pays est fragile. Il est formé de l'agrégat de tout un ensemble de groupes ethniques et culturels et linguistiques différents. Ce gouvernement n'est certainement pas sympathique, il est d'une brutalité inouïe, mais en même temps, il empêche le pays d'éclater. Or, on a un exemple pas très loin qui est celui de la Somalie. Quand un pays éclate comme ça et qu'on n'est pas capable d'opérer une transition, c'est pendant les 20 ou 30 prochaines années qu'on essaye d'éponger les dégâts.
L'historien Gérard Prunier, spécialiste de l'Afrique orientale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a célébré ce mardi ses 63 ans de son existence. Une occasion pour les dirigeants du parti de sonner la mobilisation des militants en vue de la présidentielle d'octobre 2020. De Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkar.
Ambiance de fête ce mardi au siège du PDCI, le plus vieux parti politique du continent après l'ANC, le Congrès national africain. 73 ans après sa création en avril 1946 et 20 ans après avoir été chassé du pouvoir en décembre 1999 par un putsch militaire, le PDCI tente de reconquérir ce même pouvoir. Face aux militants qui s'étaient massivement déplacés, les différents appels étaient donc à la mobilisation en vue de la présidentielle de 2020. Maurice Kakougikawe, secrétaire exécutif du PDCI.
2020 se prépare avec sérénité. D'abord, mettre dans la tête de nos militants qui doivent compter sur eux-mêmes. Nous sommes dans l'opposition, on ne doit pas attendre qu'il y ait des faveurs. Nous devons attendre qu'il y ait toujours de la difficulté dans tout ce que nous allons faire. Nous allons aller vers l'adversité, donc on doit se préparer, s'organiser et puis aller en 2020 et nous pouvons avoir la victoire parce que nous avons les électeurs.
Cette reconquête du pouvoir risque cependant d'être difficile. Le PDCI est depuis des mois confronté à des dissensions internes. Plusieurs hauts cadres du parti, dont des ministres, ont en effet rejoint le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. De quoi fragiliser le parti. Maurice Kakougikawe, secrétaire exécutif du PDCI.
Mais 40 cadres partent. Mais vous avez 40 militants qui viennent et les remplacent. Ce ne sont pas les cadres qu'il faut regarder, ce sont les militants de base qui font bloc avec le président Ali Kona Bédié. C'est dommage pour les cadres, mais très bientôt ils vont déchanter.
Dans le discours qu'il a prononcé, le président du PDCI, Henri Kona Bédié, a invité les militants de son parti à rester déterminés sur le terrain et à ne pas surtout baisser les bras face aux mouvements illégaux qui cherchent à affaiblir et même à liquider le PDCI. Joséphine Guidi-Wandia, cadre du PDCI.
C'était l'occasion pour le président Bédié de nous donner des mots d'ordre qu'on aille investir les terrains parce que 2020, c'est un objectif très important pour le PDCI.
Bois et Diampan Thiemélé, autre cadre du PDCI, croient en la victoire en 2020.
Nous ne sommes pas prêts à brader ce parti. Nous avions peur à cause des jeunes. Aujourd'hui que les jeunes ont été promus où il fallait, je suis convaincu que la bataille future, ça sera une vraie bataille politique et on l'a gagné.
2020, vous êtes optimiste ?
On a déjà gagné.
Tous ces cadres qui quittent le parti ?
Oh, vous voyez, ils sont partis, d'autres sont là.
Pour reconquérir le pouvoir, le PDCI a mis en place une plateforme avec 23 autres partis politiques de l'opposition. Premier défi de cette plateforme, obtenir la réforme de la commission électorale indépendante. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM.
en Côte d'Ivoire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et à Jean-Roger Bion. Eric Malenakiza à Washington vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.